Il était une fois.
Il était une fois un chasseur. C'était un homme bon, brave et courageux, honnête aussi, qui était marié avec une femme également pleine de qualités. Et voilà qu'ils ont eu un enfant, une petite fille mignonne comme tout, à qui ils ont donné le joli nom de Vénus. Vénus grandit et elle fait l'émerveillement de ses parents tant elle est pleine de qualités. À la fois intelligente, gracieuse, belle, forte. Alors tout va très bien dans cette famille. Seulement voilà, dans la vie, c'est comme dans les contes, et dans les contes, c'est comme dans la vie. Il y a des événements qui se produisent, heureux ou malheureux. En l'occurrence, c'est un événement malheureux qui s'est produit. La maman de Vénus est tombée malade, si malade qu'elle est morte. Alors le chasseur était inconsolable. Mais du fond de son chagrin, il se disait qu'il fallait qu'il trouve une nouvelle maman pour la petite Vénus. Il devait avoir encore les yeux tout embués par la douleur parce qu'il a trouvé une nouvelle épouse qu'il a trouvée très belle de l'extérieur, oui, mais il n'a pas vu qu'elle était laide de l'intérieur. Donc il s'est marié avec cette nouvelle femme et ensemble, le chasseur a eu un nouvel enfant, un petit garçon cette fois, que ses parents ont appelé Sirius. Vénus et Sirius, la demi-sœur et le demi-frère, s'entendent très bien. Ils jouent ensemble malgré la différence d'âge. Parce que maintenant, Vénus est une demoiselle, une jeune fille splendide. Sirius est un grand garçon maintenant, et tous les deux s'amusent, passent du bon temps. Mais la nouvelle maman de Vénus, ou plutôt sa marâtre, ne supporte pas la demoiselle. Il faut dire que Vénus est infiniment plus belle qu'elle. Alors la marâtre, comme on dit dans les contes, veut s'en débarrasser. Un jour, elle en parle à son mari, le chasseur. Elle lui dit qu'il pourrait vendre, par exemple, Vénus. Oui, la vendre comme esclave, ça leur rapporterait de l'argent. Sirius a entendu la conversation. Il court la répéter à sa sœur. « Vénus, Vénus, il y a ma mère qui veut te vendre comme esclave. Qu'est-ce que nous allons faire ?» Les deux étaient bien désemparés. Alors ils sont allés trouver une vieille dame qui habitait dans le voisinage, qui avait la réputation d'être intelligente et aussi magicienne. Ils lui ont exposé leur situation. La vieille dame les a écoutés. Et une fois qu'ils ont terminé le récit, elle leur a conseillé de quitter cette maison, estimant que la vie allait devenir insupportable pour Vénus et Sirius sous le même toit que cette méchante marâtre. Alors elle leur a donné des conseils sur la bonne façon de s'évader. Et pour les aider, elle leur a donné trois objets magiques. Un couteau, un peigne et une poignée de sel. Et elle leur a expliqué comment s'en servir. Vénus et Sirius ont remercié la vieille dame, sont rentrés à la maison, et là s'est produite une scène qui arrivait tous les jours dans cette famille. La marâtre a décidé de coiffer la belle chevelure de Vénus. Alors elle a défait le ruban qui retenait les cheveux de la jeune fille, a posé le ruban sur la table, a pris la brosse et s'est mise à brosser les beaux cheveux tout en les critiquant. En disant « Oh là là, mais quels cheveux affreux, plein de fourches et plein de nœuds !» Et Sirius en a profité pour chiper le ruban de sa sœur sur la table et le voilà qui s'enfuit en dehors de la maison. Il suivait en cela le plan que leur avait proposé la vieille dame. Alors Vénus bondit à son tour sur ses pieds et la voilà qui court après son frère. Et les deux enfants courent loin de la maison. La marâtre croit d'abord que c'est un jeu et elle s'énerve contre Vénus et Sirius. Elle n'avait pas fini de coiffer la demoiselle. Mais au bout d'un moment, elle se rend compte que les deux enfants ne rentrent pas. Alors elle va sur le pas de la porte, elle regarde et elle voit que Vénus et Sirius sont loin de la maison. Et elle comprend tout. Ils ne sont pas en train de jouer, mais de lui échapper. Alors elle décide de leur courir après. Elle court, la marâtre. Et comme elle a de longues jambes, eh bien elle va rattraper les enfants. Elle s'en approche, toujours davantage. Alors Vénus, voyant que la marâtre va bientôt les atteindre, prend le couteau magique offert par la vieille voisine, elle le dresse au-dessus d'elle et paf, le lance dans son dos. Il atterrit devant les pieds de la marâtre. Et sitôt que le couteau touche le sol, la terre s'ouvre, un fossé apparaît là, immense, devant la marâtre, qui interrompt sa course, pendant que Vénus et Sirius continuent à courir de plus en plus loin d'elle. La marâtre hésite devant cet obstacle, elle recule, prend son élan, repart en avant et la voilà qui bondit par-dessus le fossé. Et la voilà de nouveau qui court derrière les enfants. Elle s'en approche. Vénus et Sirius sentent maintenant son souffle dans leur cou. Alors Vénus prend cette fois le peigne et le jette derrière elle. Il atterrit devant les pieds de la marâtre. Et aussitôt, c'est toute une haie d'épines et de ronces qui jaillit là, qui a poussé soudainement devant la marâtre. Celle-ci s'arrête. Et puis elle décide d'essayer de franchir l'obstacle. Alors elle se fraye un chemin difficilement entre les branches. Elle se fait griffer et gratigner. Elle a le visage et les bras en sang. Mais elle réussit tout de même à franchir cette haie. Et la voilà qui court maintenant de nouveau derrière les enfants, avec ses longues jambes. Elle s'approche. Alors les enfants, sentant qu'elle va bientôt mettre sa main sur leurs épaules, Vénus prend la poignée de sel, hop, la jette derrière son dos, et aussitôt, c'est une immense mer qui s'est formée derrière les enfants, devant la marâtre, qui s'arrête. Impossible de traverser à la nage cette immense mer. Et les enfants là-bas sont sur l'autre rive, loin, loin. Alors la marâtre s'est arrêtée et la voilà furieuse. Et elle décide de maudire son fils. Elle pousse un cri. Sirius, tu n'es plus mon fils, je te renie et je te maudis. Je veux que tu aies soif et quand tu boiras l'eau contenue dans la trace d'un animal, je veux que tu te changes en cet animal. Les deux enfants n'ont plus de raison de courir maintenant. Ils marchent, loin de chez eux, toujours plus loin. Ils n'ont plus de maison, plus de parents non plus, mais au moins ils sont libres. Ils avancent. Il fait très chaud ce jour-là. Le soleil cogne. Alors les enfants ont soif. Sirius surtout n'arrête pas de se lamenter. « Vénus, j'ai soif, il faut que je boive. » La jeune fille lui répond « Fais courage mon cœur et prends patience. Tu sais, plus loin, nous arriverons à la fontaine du roi et là on pourra boire. »« Mais j'ai trop soif, je te dis Vénus. » Et voilà que leur chemin croise la trace d'un loup. L'animal est passé un peu plus tôt, il a laissé ses empreintes clairement sur le sol, on voit les petits creux, et dans chacun des petits creux, il y a quelques gouttes d'eau qui sont restées là, de la rosée ou de la dernière pluie. « Oh, regarde Vénus, il y a de l'eau, je vais la boire !»« Non, ne la bois pas, Sirius, si tu la bois, tu vas te transformer en loup et tu voudras me manger !» Alors Sirius résiste à la tentation et il continue à marcher en compagnie de sa sœur tout en se lamentant. « J'ai trop soif, Vénus, il faut que je boive !»« Patience, mon cœur, bientôt on arrivera à la fontaine du roi !» Et voilà qu'ils trouvent devant eux la trace d'un agneau qui est passé là tout à l'heure et on voit des petites gouttes qui traînent encore dans les empreintes de l'agneau. « Oh, regarde, Vénus, de l'eau, je vais la boire !»« Non, ne la bois pas, Sirius, si tu la bois, tu te transformeras en agneau et les gens voudront te tuer !» Mais il est trop tard. Déjà, Sirius s'est penché, il a lapé quelques gouttes d'eau dans une empreinte, et aussitôt, le voilà, transformé en agneau qui bêle et qui parle encore la langue des hommes, un agneau qui répète « Bé, Vénus, bé, Vénus, suis-moi, mon cœur. » Alors Vénus continue à marcher, la demoiselle en compagnie de l'agneau, il marche, enfin ils arrivent à la fontaine du roi. La demoiselle prend de l'eau, elle donne à boire à son frère, elle boit elle-même, elle est si découragée. Elle regarde là, à côté de la fontaine, un grand arbre. Elle lève le nez, elle contemple la cime et elle s'exclame « Ah, si seulement je pouvais quitter cette terre et aller vivre là-haut » À peine a-t-elle prononcé ces mots que la voilà qui se soulève, elle quitte le sol, elle flotte dans les airs. La voilà qui monte, et elle arrive jusque sur la cime de l'arbre. Là est apparu un trône tout en or étincelant, et Vénus est assise sur le trône au sommet de l'arbre. Tandis qu'au pied, là, à côté du tronc, il y a l'agneau qui broute l'herbe et qui s'arrête de brouter de temps en temps pour lever la tête et répéter « Bé, Vénus !» Bé, Vénus. Arrivent les serviteurs du roi, en compagnie des chevaux royaux pour les faire boire à la fontaine. Mais les chevaux sont effrayés par cette lumière étincelante qui jaillit de la cime de l'arbre. Alors ils brisent leur licou et s'enfuient. Les serviteurs sont furieux. Et ils disent à la demoiselle juchée sur l'arbre là-haut « Et toi là-bas, tu vas descendre de l'arbre, oui, tu fais peur aux chevaux !» Mais Vénus leur répond « Non, je ne descendrai pas. » « Allez, descends, sinon on va aller tout raconter au roi, et il sera très fâché. »« Non, je ne descendrai pas. » Les serviteurs se rendent au château pour aller raconter cela au roi. Ils tombent sur le prince, le fils du roi, et ils lui expliquent la situation. À côté de la fontaine royale, au sommet du grand arbre, là, il y a une demoiselle assise sur un trône, et elle est si resplendissante sur son siège merveilleux qu'elle a fait peur aux chevaux et qu'ils se sont enfuis. Pour en avoir le cœur net, le prince se rend à la fontaine, lève le nez. En effet, il est stupéfait, émerveillé. La demoiselle est sublime sur la cime de l'arbre. Il est aussitôt séduit et lui dit « Oh, jeune fille, tu veux bien descendre de l'arbre ? Je suis le prince. » Mais Vénus lui répond « Non, je ne descendrai pas. Allez, je te récompenserai. Tiens, je t'épouserai. Tu deviendras princesse. » Non, je ne descendrai pas. Tu vas descendre, oui, sinon je vais chercher des bûcherons pour qu'ils viennent abattre l'arbre. Non, je ne descendrai pas. Le prince fait appel à des bûcherons et leur donne l'ordre de cogner avec leur hache contre le tronc. Les bûcherons se mettent au travail et les voilà qui frappent, qui cognent avec leur hache. Mais à chaque coup de hache qu'ils donnent contre l'écorce, il y a l'agneau qui, de l'autre côté du tronc, donne des coups de langue à l'arbre. Et chaque fois qu'il lèche l'écorce, le tronc grossit, grossit, grossit. Si bien que les bûcherons ont beau cogner, l'arbre est de plus en plus solide. Le prince se fâche contre les bûcherons, les renvoie, les traitant d'incapables. Il faut qu'il trouve une autre solution. Alors il pense à une vieille dame qui habite dans une cabane, là, dans la forêt. Elle a la réputation d'être pleine de malice et d'astuce. Il va la trouver. Et il lui dit « Écoute, la vieille, je te récompenserai si jamais tu arrives à faire descendre cette demoiselle qui est perchée en haut de cet arbre à côté de la fontaine, je remplirai ton foulard de pièces d'or. »« Ah, soyez tranquille, majesté, oh, je vais arriver à la faire descendre, cette demoiselle, comptez sur moi !» La vieille prend dans sa maison trois objets. Un pétrin, c'est-à-dire une de ces caisses en bois dans lesquelles autrefois on pétrissait la pâte pour fabriquer le pain. Elle prend aussi un tamis et un sac rempli de farine. Et avec ces trois objets, elle se rend à côté de la fontaine, au pied de l'arbre. Son pétrin, elle le pose à l'envers, sur le sol. Le tamis aussi, elle le met dans le mauvais sens, elle l'a retourné à l'envers. Puis elle prend son sac rempli de farine, elle le verse par-dessus le tamis. Elle met de la farine absolument partout, mais évidemment, elle ne tamise rien du tout. Au sommet de l'arbre, Vénus voit la maladresse de la vieille dame et lui crie « Madame, madame, c'est faux ce que vous faites. Le pétrin, vous devez le retourner dans l'autre sens. Et le tamis aussi, il est à l'envers. » Non seulement la vieille dame fait semblant d'être gâteuse au point de ne plus savoir tamiser la farine ni préparer le pain, mais en plus elle fait semblant d'être sourde. Et elle crie « Hein, quoi? Il y a quelqu'un qui me parle là-haut? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Descends de quelques branches et je t'entendrai mieux. » Vénus descend de quelques branches et elle répète à la vieille dame « Madame, c'est faux ce que vous faites, le pétrin, faut le retourner dans l'autre sens et le tamis aussi. Oh, mais décidément, je comprends rien à ce que tu me dis. Descends encore, allez !»
Alors Vénus descend de branche en branche et elle finit par mettre pied à terre pour montrer à la vieille dame comment faire pour bien tamiser la farine. Mais le prince, qui est caché derrière un arbre, bondit de derrière le tronc, attrape la demoiselle par la taille, et comme il est très fort, hop, il saute sur son cheval, et cataclope, 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 se dirige vers son château. Vénus, dans ses bras, proteste, gigote, elle dit « Mon agneau, mon agneau !»« Je t'en offrirai des agneaux autant que tu voudras, ne t'en fais pas, je suis le prince !»« Non, c'est cet agneau-là que je veux, c'est le mien !»
Le prince arrive au château, il présente la demoiselle à ses parents, le roi et la reine, et il leur dit qu'il va l'épouser. Vénus insiste tellement à propos de cet agneau, elle veut qu'on l'apporte au château. Alors le prince envoie ses serviteurs et voilà l'animal qui est admis dans l'enceinte du château.
et c'est ainsi que Vénus et Sirius s'installent dans le palais royal. Bientôt, on célèbre le mariage du prince et de Vénus, qui devient princesse. Le prince adore son épouse, il la trouve merveilleuse. Le roi aussi est séduit par sa belle-fille, il trouve que son fils a très bien choisi. La reine, en revanche, ne supporte pas cette belle-fille. Elle n'arrête pas de reprocher à son fils le choix de cette demoiselle. Elle lui répète « Mais enfin, quelle idée ! Épouser une demoiselle trouvée sur les arbres, enfin, mon fils !» Il faut dire que Vénus est infiniment plus belle que sa belle-mère. La reine est bien décidée à se débarrasser de Vénus. Un jour, elle en trouve l'occasion. Le prince et le roi sont partis à la chasse. Alors la vieille reine propose à la jeune princesse de l'accompagner dans le jardin pour aller respirer les fleurs, admirer les arbres. Et la vieille reine s'arrange pour que, chemin faisant, on passe à côté du puits à sec. Et sitôt que les deux femmes arrivent à la hauteur du puits, la reine, hop, donne un coup à sa belle-fille qui tombe tout au fond du trou. Vénus n'est pas morte, elle est blessée. Mais impossible de sortir de ce trou. Bientôt, le prince et le roi rentrent au château. Le prince s'étonne. « Mais où est ma femme ?» Il s'entend répondre par sa mère. « Oh, mon fils, elle a disparu depuis ce matin. Impossible de savoir où elle se trouve. Enfin, c'est pas très étonnant. Une jeune fille trouvée sur les arbres, mon fils. Enfin, profitons de cette absence. Tiens, cet agneau, depuis ce matin, n'arrête pas de me casser les oreilles. Il bêle. Oh là là. Messieurs, allez aiguiser le couteau pour lui trancher la gorge. » Pendant que les serviteurs s'affairent à aiguiser le grand couteau, eh bien, l'agneau, lui, a bien compris ce qu'il attend. Alors il court jusqu'au jardin. Il se penche par-dessus le puits. Et il dit à Vénus au fond du puits, « Bé Vénus, on veut m'égorger. Mais mon cœur, tu dois te tromper, personne ne veut te tuer. Bé Vénus, je te dis qu'ils sont en train d'aiguiser le couteau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon cœur? Je suis enfermé au fond de ce puits, je ne peux pas t'aider. » Arrivent les serviteurs du roi qui empoignent l'agneau, qui l'emportent jusqu'à la cuisine. On pose sur le cou de l'animal le grand couteau bien aiguisé. Au fond de son trou, Vénus est désespérée. Elle dit « Oh là là, on est en train de tuer mon frère et moi je ne peux même pas lui venir en aide parce que je suis enfermée là au fond. » Elle a dit ces mots et la voilà qui se soulève, qui monte, qui quitte le fond du puits. Et la voilà qui court dans le jardin, sur l'allée. Elle court en direction de la cuisine et elle dit « Mon agneau !» Elle pénètre dans le château, se dirige vers la cuisine, dans le couloir. « Mon agneau !» Elle arrive trop tard. Déjà, les serviteurs ont coupé le cou de l'agneau. Alors Vénus se couche là. Elle caresse la toison de son frère et elle dit « Mon agneau !» Elle pleure, elle est inconsolable. Le prince ne comprend pas. « Mais enfin, ma chérie, reprends-toi. Vénus, je t'en offrirai des agneaux autant que tu voudras. » « Non, cet agneau-là, c'était le mien. C'est lui que je voulais. » Et elle pleure. Les cuisiniers, maintenant, préparent le repas du soir. Au menu, gigot d'agneau. Toute la famille royale, à l'exception de Vénus, est attablée et on s'apprête à manger le délicieux repas. On insiste auprès de Vénus. « Vénus, viens manger. La viande a l'air succulente. »« Non, je n'ai pas faim. »« Mais enfin, Vénus, viens partager le repas avec nous. »« Non, vraiment, je n'ai pas faim. » Une fois le repas terminé, Vénus se rend à la cuisine. Elle récupère tous les os de l'agneau. Elle les fait mettre dans une cruche. Et cette cruche, elle va l'enterrer dans le jardin. Le lendemain matin, à cet endroit précis, a poussé un arbre, au feuillage vert vif, magnifique. C'est un oranger qui porte une seule orange, là, tout au sommet de l'arbre. Une orange qui brille, appétissante, sur la plus haute branche. Sitôt qu'on voit un fruit pareil, on a envie de le dévorer. Alors la reine se met à glapir. « Allez me cueillir cette orange, allez me cueillir cette orange, je la veux !» Les serviteurs se précipitent, essayent de grimper sur le tronc de l'arbre, mais les branches sont trop hautes, impossible d'atteindre le fruit. « Ah, vous êtes des incapables, je vais aller la cueillir moi-même cette orange !» La reine s'approche, mais elle se fait attaquer par les branches de l'arbre, qui font mine de lui arracher les yeux. Alors elle recule. C'est Vénus qui s'avance. Elle tend le bras, elle dit « C'est moi qui vais l'accueillir, cette orange. » Et alors la branche, la plus haute branche, celle qui porte le fruit, se met à descendre d'elle-même. Elle se plie, se plie, se plie, et le fruit vient se déposer dans la main de Vénus. Et la jeune femme entend une voix qui sort du fruit et qui dit « Serre-moi fort, Vénus !» Alors la princesse serre ses doigts autour de l'orange. Et aussitôt la branche, hop, se redresse et propulse dans les airs Vénus et Sirius. Les gens qui sont restés à terre entendent la voix de Vénus qui s'éloigne et qui dit « Adieu, mon gentil mari. Adieu, mon gentil beau-père. Moi, je ne veux plus vivre en ce monde parce que des mains de mon affreuse marâtre, je suis tombé entre les mains de mon affreuse belle-mère. » Depuis ce jour, Vénus et Sirius sont devenus deux étoiles là-haut dans le ciel. Sirius est la plus brillante et Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger, est la plus belle.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια να βγει, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Κι ο ωκεανός είναι μικρός, να πάρουν το καημό μου. Να διώξουνε τα μάτια σου, να πνίξουνε τους όρκους σου από τον λογισμό μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Το κρύο το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε.